Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphie, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans Terrain Vague. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Xavier. Bonjour Nicolas.
Bonjour Laura.
Bonjour Bruno qui est en régie. Alors pour ceux qui nous écoutent, Nicolas Xavier, on l'a reçu un peu dans les débuts de l'émission. Il nous a parlé de son parcours en tant que graffeur, surtout. C'était tellement intéressant qu'on a voulu faire une deuxième émission et pour aborder sa carrière de galeriste notamment. Alors Nico, on va parler d'abord du Montana Shop. On l'avait abordé un petit peu, donc cette volonté avec, je ne sais plus le nom de ton interlocuteur en Espagne.
Jordi Rubio Rocabert.
On avait abordé un petit peu l'ouverture du coup du Montana Shop. Qu'est-ce qui se passait un peu dans cette boutique hors la vente de bombes? Je crois qu'il y avait quand même une programmation un peu sympa.
Ça a été mes premières années, mes premières expériences. Alors c'était assez particulier, quand ce concept est arrivé, quand Jordi m'a proposé le Montana Shop et galerie.
Mm-hmm. C'était galerie dès le départ en fait.
Dès le départ, okay. Il y avait donc shop et galerie.
Et galerie, ok.
Le shop c'était pas de l'acquis, mais c'était de la vente directe aux clients du matériel, des duos graffiti. Et c'est ça qui a permis les deux voire trois premières années à apprendre un brin d'expérience et okay. Monter les premières expositions. Parce qu'il faut dire que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain.
Et oui. Il n'y a pas de formation pour
non,
être
non, mais non. Et les premières années, on tente des choses.
Hein. Oui.
On a beau être inspiré, on a beau aimer l'art sous toutes ses formes.
On tâtonne.
C'est un métier.
Et ouais. Oui.
Donc ça a été... C'est ce qui m'a stimulé dès le départ. J'avais déjà travaillé indirectement pour des boutiques. Donc vendre des bombes de peinture, ma foi, ça reste un produit comme un autre. Mais la galerie, c'était toute une nouvelle possibilité de...
C'est une autre façon de vendre un objet aussi, hein.
C'est oui, pas... moi, je le vois, ça va au-delà d'une vraie vente.
D'une vente, bien sûr.
Et il y avait tout à prendre et c'est ce qui me stimulait, à vrai dire, dans ce concept-là.
Ouais.
Et même quand j'étais allé le voir pour discuter d'un projet qui était similaire à ce fameux Montana Shop et Galerie, moi, c'était la représentation de la discipline à travers un lieu. Et comme je m'entends l'expliquer à la dernière émission, j'avais eu l'occasion de travailler pour de nombreuses structures. Mm-hmm. Donc j'étais un cool directeur artistique pour mettre en place une partie graffiti, où on fait venir des graffeurs un peu partout en Europe et les mettre en scène et qu'ils puissent peindre devant le public. Mm-hmm. Bref, il y avait des prémices comme ça.
T'avais déjà un peu touché à ça, de près ou de loin, quoi.
Moi, en fait, il y a un truc qui est beaucoup plus profond que ça et que je m'entends encore dire aujourd'hui, ça se mêle au fur et à mesure, mais il y avait un côté un peu revanchard, mais du bon revanchard. Mm-hmm. Quand j'étais gamin, en fait, le graffiti était toujours... il n'était pas compris, de toute façon, il était stigmatisé à fond. On posait nos tags un peu partout, forcément, mais je peux comprendre, ça embêtait le monde.
Ça en agaçait plus d'un.
Et donc souvent, je l'ai compris que plus tard, en grandissant, comme quoi, en grandissant, on comprend plein de choses. on nous comparait à des traces de pisse de chien.
Oui, je me rappelle de cette comparaison. C'est bien imagé, quoi.
Et cette comparaison m'avait vraiment marqué. Au départ, quand j'étais plus jeune, je prenais ça comme une vraie agression.
Ah bah oui.
Mais quand on y réfléchit, quelque part, c'était pas si bête que ça, quoi. Enfin, la comparaison n'est pas belle.
Que c'est pas joli et c'est un peu vulgaire. Mais dans le fond... Est-ce qu'on est si loin de, de la
voilà,
réalité?
On laissait nos traces aussi. Donc, et voilà, ce côté revanchard où je me disais, il ne voit que le côté tag, donc case dégradation. Et moi, je gravitais dans un milieu graffiti qui était assez divers et varié, où on peignait des fresques à thème, on ne faisait pas que du tag.
Bien sûr.
Et moi, je savais au fond de moi qu'il y avait énormément de talent dans ce milieu-là, quoi, et qui n'avait pas la possibilité d'accéder aux galeries, parce qu'il y avait un côté très académique en France, qui est encore, hein, qui est en train de changer, mais... Il fallait faire des écoles, les beaux-arts en soi, pour pouvoir accéder à des galeries d'art. Et tout ça, ça s'entremêlait dans ma tête. Et j'avais envie d'un lieu où je pouvais représenter la discipline.
Ouais.
Comme moi, je...
Comme toi, tu la voyais, tu la
exactement.
Vivais, en fait. Et oui, bien sûr.
Voilà,
c'était
donc,
ça, un peu la revanche, finalement.
Ben, ce premier projet, c'est ce qui m'a valu mes premières années d'expérience, etc. Il était surtout motivé, basé sur ce détail-là, on va dire.
Et la première expo au Montana, est-ce que tu t'en souviens?
La première expo, c'était Franck Noto.
Ah!
Et c'était sous le nom de...
Je crois qu'on cite son nom à chaque émission.
Ben oui. Ben, il a une place particulière, tant dans mon cœur que dans mon développement et ma carrière. On l'a commencé ensemble, lui en artiste et moi en galeriste. Et c'était le premier en octobre 2006 faire... La première expo au Montana, ça a été le premier en exposition personnelle quand j'ai ouvert la galerie Nicolas Xavier. Et c'était le premier quand on a eu l'extension il n'y a pas si longtemps.
Que des premières fois.
Et sans le vouloir. C'est ça qui est dingue.
Oui, c'est ça qui est dingue. Ouais. Une sorte d'alignement.
Et voilà, c'est comme ça.
Quand on connaît Franck Noto en plus, bon, on sait que c'est pas innocent ce genre de...
Non, pas du tout. Pas du tout.
Donc du coup, alors, combien de temps tu restes au Montana Shop?
Combien
de temps ça dure pour toi?
Alors, je reste officiellement 10 ans.
Ah, quand même.
Un petit peu plus. Mais au bout de 5 ans, je savais que le Montana Shop & Gallery, au fond de moi, serait un tremplin dans ma carrière.
Okay.
Et je me suis vite rendu compte que, comme j'expliquais auparavant, que la galerie, c'est ce qui m'apportait le plus de plus d'émotions. Et donc, ça n'a pas raté. Au bout de 5 ans environ, j'ai commencé à me renseigner pour trouver un autre lieu. En fait, je me suis confronté à plein de choses avec le Montana. Ça m'a appris... Je me suis cassé le nez sur certaines choses.
Ça a été ton école un petit peu. Hein,
Ouais, ça a été mon école. Ça m'a permis de comprendre plein de paramètres avec qui j'avais envie de travailler, comment je voulais travailler. Et puis, j'étais en train de créer une identité, mon identité, celle que je voulais développer avec certains artistes. Et j'étais déjà dans la réflexion de chercher un lieu, donc j'ai commencé à chercher un lieu.
D'accord.
Et ça a été une vraie mission, ça a pris 4 ans.
Ah ouais?
Ouais, le premier que j'ai sollicité, c'était Michael Delafosse. Je le remets dans la discussion.
C'est
lui aussi, il a l'air de rien.
Il est toujours là quelque part.
Il revient quelque part. Il était adjoint à la culture et c'était à lui que je me suis adressé le premier. Je lui avais demandé de me donner un coup de main pour trouver un lieu à Montpellier, donc il m'avait donné un coup de main. J'avais rencontré quelques membres de la CERM. J'avais visité plein de locaux, mais je n'avais pas de coup de cœur. Et c'est comme un artiste qui se fait qu'un collectionneur a envie d'avoir à la maison. Moi, c'est un peu la même chose pour mon lieu. J'avais besoin d'un lieu avec une âme, quelque chose.
Et tu avais des critères. Enfin, je pense que
des critères.
Tu voulais que ce soit dans le centre de Montpellier.
Ouais. Ouais, je voulais pas quitter le vieux Montpellier.
Et ouais.
Et puis bon, ce qui devait arriver, arriva. Quand on croit au plus profond de son cœur à quelque chose, je pense que tout l'univers conspire pour qu'on y arrive.
Ouais, c'est pas faux.
Merci Paolo Coelho.
Alors, avant d'arriver à la galerie Nicolas Xavier qu'on connaît aujourd'hui, on revient un petit peu sur les expos du Montana. C'était à quelle fréquence que tu faisais ces expos-là?
Là-bas, il y en avait beaucoup. Beaucoup trop même. Mais voilà, on tentait des choses, quoi. Il y avait 5, 6, 7 expos, sans parler des premiers salons qu'on a fait, sans parler de certains événements. Par moments, on prenait la galerie, on la peignait.
Ah ouais?
Ouais, c'était génial. Mais on montait des expos, c'était assez hallucinant. Quand j'y repense, par moments, on en discute avec certains qui sont encore à mes côtés, dont Franck. Et on montait des expos à thème. Je me rappelle, on avait titré une expo, il était une fois. Et on était parti chercher des encadrements baroques. Et on avait typé avec des tapisseries à l'ancienne, les murs. Enfin, on avait fait tout un truc. C'était génialissime. Il y en avait une autre qu'on avait nommée Spray School. Mm-hmm. Spray, bombe,
school.
Et celle-là, elle était plus typée façon monde d'enfant. Je me rappelle, il y avait Gum dans cette expo. À l'époque, on travaillait encore ensemble. Il y avait... Enfin voilà, c'était des super projets parce que ça allait au-delà de présenter leur boulot et présenter un certain travail.
Tu créais un univers et c'était vraiment une expérience. Je pense que tu étais déjà dans ce truc-là de faire vivre aux collectionneurs et au public qui venait de lui faire vivre une expérience... immersive presque dans l'univers de l'artiste.
Bah, c'était les premières expériences, c'était autre chose, mais qu'est-ce qu'on a pu apprendre avec la galerie de Montana, c'était quand même assez dingue quoi.
On arrive du coup donc à la galerie Nicolas Xavier. En quelle année tu ouvres cette galerie?
Elle ouvre officiellement au public en avril 2016.
Avril 2016, ouais. Ok.
Mais il m'a fallu 9 mois plein pour avoir, enfin, du moment où j'ai signé le bail pour le local et tous les travaux qui ont été faits, il m'a fallu 9 mois. Bon, après, voilà, c'est pas mal de petites choses qu'on fait que ça a pris un peu plus de temps, mais on est parti de zéro. On partait d'un lieu qui était initialement un garage d'un propriétaire.
Ah, d'accord.
Il y avait encore des sols avec des galets de rivière. Il a fallu tout décaisser. Enfin, ça a été un énorme boulot de...
Ah oui, quand on voit ce que c'est aujourd'hui, on a du mal à croire que c'était ça. Pour ceux qui ne la connaissent pas, déjà, je vous encourage à aller la voir parce qu'en ce moment, il y a l'expo de Mathieu Lucas, Immersion, qui est une énorme claque. Donc allez-y, courez-y. C'est un lieu... c'est vraiment le vieux Montpellier dans toute sa splendeur. C'est des voûtes, c'est de la pierre apparente, c'est un abreuvoir que tu as conservé c'est clair. Enfin, c'est dans son jus et à la fois tu l'as bien remis en état comme il faut. Mais je pense que tu as réussi à t'approprier ce lieu-là et en faire un second chez toi.
J'y passe, je crois, plus de temps que je peux passer chez moi. Mais bon, ça, c'est comme ça qu'on est passionné, on compte pas ses heures. Mais en fait, de ce lieu, il y avait quelques traces de l'histoire, sans parler des croisées d'ogives au plafond. Les trois premières salles, je parle pas de l'extension, on en parlera plus tard, mais les trois premières salles, les deux salles du fond du XIIIe siècle, la troisième qui est plus devant et qui, elle, est datée du XIXe.
Ah ouais.
On le remarque par rapport à sa pierre et ses changements de croisée. Enfin voilà, c'est on rentre un peu plus en technique et c'est l'architecture pure.
Il y a un cachet, il y a une vraie histoire dans ce.
Et puis il y a ce fameux mangeoir qui a surpris beaucoup de gens et c'est des petites choses qui nous permettent de redescendre un peu dans l'histoire. Donc j'avais rencontré des personnes qui étaient fortement renseignées sur cette histoire parce que je voulais aussi savoir en parler de ce lieu. Je savais que même si on se l'appropriait, qu'on l'a typé galerie d'art contemporaine, en lissant les murs blancs, jolis, et qu'on laisse quand même apparaître...
cette pierre et ses voûtes.
Cette pierre et ses voûtes. Hein. Forcément, j'aurais un public qui rentrerait juste pour admirer ça.
Et, oui.
Et ça n'a pas raté. Hein. J'ai quand même pas mal de gens qui rentrent qui sont assez fascinés par ce lieu. Enfin, c'est un super outil de travail, tout simplement.
Ah oui.
Clairement. Ça met autant en valeur le lieu que les œuvres d'art des artistes. Il y a une alchimie, une adéquation, une symbiose. On peut utiliser le mot qu'on voudra, mais
le contraste est encore plus frappant en ce moment avec l'expo de Mathieu. C'est à voir parce que son univers et la typologie de cette galerie, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Rien que pour ça, il faut aller la voir.
Ben oui, et puis, autant les artistes, au départ, ils n'ont pas difficulté à la manœuvrer, à les réfléchir en scéno, mais c'est vrai qu'on a des salles et on n'a pas un cube, comme on peut voir dans certaines galeries,
oui, c'est sûr.
Qui peut paraître de prime abord assez froide, bétonné. Enfin voilà, c'est une autre atmosphère et
C'est une autre façon de vivre l'expérience d'exposition
aussi,
parce qu'il y a comme un circuit finalement, il y a une déambulation qui se fait. On n'est pas effectivement, on n'est pas entre quatre murs, c'est pas un cube comme tu dis où on voit et on sort. Enfin, c'est vrai que c'est pas pareil et je crois que ça participe vraiment à apprécier une exposition d'une manière différente. Les artistes que tu accompagnes aujourd'hui, que tu représentes dans ta galerie, donc on a parlé de Franck Noto, on a parlé de Mathieu Lucas, il y en a quelques autres. Comment tu as choisi ces artistes?
Comment je les ai choisis? Comment ils m'ont choisi?
Ou comment ils t'ont choisi, eux, oui.
Ça va dans les deux sens et je n'oublie jamais de le dire. Parce que oui, je les choisis. En fait, il y a toujours trois paramètres qui rentrent en jeu. Il y a l'artistique, la qualité de leur art. Et puis il y a l'humain qui arrive derrière. Mmh. On a d'abord un premier contact avec leur univers, leur identité, leur direction. Et bon, pour certains, ayant pratiqué dans mon passé, je connaissais leur travail plus qu'en profondeur. Et mais en fait, à partir du moment où j'ai, par le biais de Montana, parce que c'est comme ça que je me suis construit, que j'ai compris un petit peu comment fonctionnait le marché d'art, l'art. Et puis, il faut entremêler dedans sa propre sensibilité, sa vision et son flair. C'était se créer une identité, une ligne directrice. Donc, entre une réalité du marché d'art, mais aussi ses propres ressentis et ce qu'on avait envie de présenter. Donc, je pense à Mode 2, Bandeau pour la old school graffiti français. Boris Telegen, un célèbre artiste hollandais. Bomka, notre atypique Bomka.
Ah oui.
L'incontournable Bomka.
Ça pourrait être atypique, il est atypique.
Je pense à Bolt, je pense à Nubian,
Pépite
Montpellier-Rennes. Et voilà, ça fait un cheptel d'artistes. Mais c'est ce qui. Moi, on me l'a souvent dit, les acteurs, les collectionneurs, les passionnés, les badauds, enfin, tout ce public qui passe nous rendre visite, m'a souvent soulevé avec. Et avec beaucoup d'éloges, le fait qu'on ait une programmation et une proposition d'un line-up d'artistes assez variés, mais qui s'embriquent. Et c'est ce que j'adore. C'est, des fois, j'adore mélanger l'immélangeable.
Ouais.
Un Franck Noto avec un Bomka, c'est...
Oui, par exemple.
c'est juste improbable, mais si on arrive à trouver cette alchimie, il y a quelque chose de très intéressant à faire.
Du coup, cette direction, toi, tu l'as fait à l'humain, j'ai l'impression, beaucoup, au talent, à la proposition artistique, mais pas en pensant, ces artistes-là, ils vont bien ensemble. Enfin, j'ai l'impression que tu le fais un peu au feeling, finalement.
Bah, le feeling a du contenu, de la richesse.
Bien sûr.
Par moments, je m'entends vouloir expliquer quelque chose qui est inexplicable. C'est que du ressenti. Et Parce que je le redis, il y a une réalité de marché. Donc, si on se basait uniquement sur des résultats, on irait dans certains sens et pas d'autres. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Mm-hmm. Je ne le perds jamais de vue, ce truc-là. Parce qu'on a quand même une galerie à faire tourner. On a des artistes à... On est responsable d'artistes.
Bien sûr.
Et on a des résultats à leur obtenir. Donc, il y a toujours ce côté un peu, si je peux me permettre, dans une case financière. Mais non, moi, je fonctionne, comme tu dis, Laura, au ressenti, au feeling, au flair. Et il m'a amené là où je suis. Et on a une super belle équipe, à vrai dire.
Ça, j'avoue que c'est qualitatif. Hein, chez Nicolas Xavier, on y vient du coup à cet accompagnement, la relation que tu as avec les artistes. Alors, j'ai pu l'observer avec Franck Noto, mais bon, Franck Noto, tu le connais depuis longtemps.
Ouais.
Mais j'ai pu l'observer plus récemment avec Mathieu, parce que Mathieu, ça fait pas hyper, hyper longtemps qu'il est avec toi, qu'il est chez toi. Donc, j'ai vu comment c'est né un petit peu, avec un œil extérieur. Comment tu qualifierais la relation que tu as avec les artistes? Quel est ton rôle un peu auprès d'eux et qui peut être, j'imagine, varié selon les artistes? Parce que la relation que tu vas avoir avec Mathieu n'est pas la même que celle avec Mode 2, par exemple.
Ouais, ça c'est manager. Ça aussi, je l'ai appris. Et je l'apprends encore. Hein. On l'apprend toute sa vie, de toute façon. Merci de le soulever, Laura. C'est génial. Le facteur humain, j'essaie de le faire ressentir au maximum, que ce soit à travers le public ou ma relation avec les artistes. C'est pour ça que j'ai parlé de se choisir autant eux que moi.
C'est ça, ouais.
On a quelque chose à développer ensemble et il y a un art qui est proposé, mais il y a un humain qui fait cet art. Et oui. Ça, bah, tu ne peux pas le sortir de l'équation. Et moi, j'ai besoin de les aimer, tout simplement, quoi, si on peut parler
Non, assez, mais bien sûr, je pense que c'est quand même, quand ils font des expos, tu es quand même en lien étroit avec eux pendant longtemps, pendant le temps qu'ils produisent, en fait. J'ai l'impression que tu as un peu un rôle de mentor, dans le sens où tu es là aussi pour rassurer, pour dire bah, c'est bon, là tu es dans les temps, et là il faut se bouger un petit peu. Enfin, je pense que tu as aussi ce rôle hors galeriste, mais vraiment d'accompagnateur, en fait.
Ouais, ben, c'est comme ça que je le vois. Je pense que ça devrait être comme ça pour tout le monde, mais enfin, chacun voit midi à sa porte. J'ai pas de leçons à donner. Moi, en tout cas, c'est ça, c'est pas juste être un galeriste, et, c'est par moments le confident, l'ami, la nounou.
À
mes heures perdues, j'adore faire ça, le coach love. Non, le coach, des fois on m'appelle le coach, mais c'est des termes que je trouve assez forts. J'ai pas envie de me les approprier, c'est juste un partage d'humains. Et être là quand ils ont besoin, ça m'est arrivé, je me souviens, Bolt, un jour, il m'appelle, on est en train de préparer son expo, et il m'appelle à un mois et demi de l'expo. Quelque part, j'entends à sa voix qu'il n'est pas bien, il est en panique, et je lui dis, ben, écoute, ne bouge pas.
J'arrive.
Laisse-moi regarder les billets de train, et le lendemain, j'étais dans son atelier à Paris.
Ah oui.
Et on a pu recadrer son expo, définir une scénographie, définir des identités sur lesquelles il pouvait bosser, et je suis parti à 16h de l'après-midi en disant « C'est bon, Thibaut ?»
On peut y aller.
Il m'a dit « Non, c'est bon, merci Nico. » Et je suis descendu à Montpellier. Voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça qui fait que cette relation humaine, voilà, c'est en fait un galeriste. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. C'est plein de choses en même temps, en fait.
Ah oui, c'est pas que... Enfin, en tout cas, à travers toi, je vois bien que c'est pas que d'avoir des œuvres et de les vendre. Hein. On est bien au-delà de... Au-delà de ça, il y a vraiment un côté humain. Et d'ailleurs, peut-être que par rapport à d'autres galeries que j'ai pu voir en ligne ou quoi, ou qui accompagnent, enfin, qui représentent des tas d'artistes, tu fais le choix de ne pas en avoir un millier. Hein. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas hyper, hyper nombreux, finalement, quand on prend d'autres galeries, un peu à la même hauteur que toi. Ça, c'est un choix aussi que tu as fait.
Ouais, très humblement, j'essaie d'être le plus qualitatif possible, en tout point, que ce soit en proposition d'expo, en proposition de contenu, en choix des artistes, après ça plaît ou ça plaît pas, mais les empiler, c'est juste pas quelque chose de possible chez moi.
Okay.
Encore une fois, il y a un paramètre humain, et il y en a réellement 7 qui sont en tête de gondole à la maison.
Mm-hmm.
Ça fait beaucoup, il y en a un petit peu plus à la galerie. Mais on ne peut pas s'en occuper réellement à 100% si on les empile.
S'ils sont trop nombreux. Bah, étant donné la relation que tu as avec eux et comment toi tu envisages ton travail et ton activité, je pense que tu en aurais plus que ça. Ce serait, tu aurais besoin d'une journée plus longue que 24 heures. Quoi.
Oui, bah voilà, chacun voit un peu son projet à sa façon. Il y a des galeries qui ont décidé de les empiler. Ils ont juste un fonctionnement de vente pure, donc ils sont stimulés que pour vendre, et puis pourquoi pas.
Ah oui, oui.
Après, je suis absolument pas en train de dire que c'est mauvais.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais.
Non, non, moi, chez moi, c'est pas du tout ça. C'est, bien évidemment, il y a une réalité financière.
Bien sûr.
Les vendre, autant pour eux, pour moi. La lumière doit rester allumée, je l'entends à la galerie, la lumière elle s'allume tous les matins, il faut la garder allumée, je m'entends le dire. Donc voilà, il y a cette réalité-là, mais... Pas comme ça, c'est... la galerie, c'est au-delà d'une galerie d'art, en fait. C'est un projet, tout simplement. Ouais. C'est un projet d'expo, c'est un projet de proposition, c'est des moments partagés. Je m'entends parler avec Mathieu pour son exposition intitulée Immersion. J'ai dit, Mathieu, on offre un spectacle.
Ah oui.
J'utilise ce terme-là parce que c'est un réel spectacle. On reçoit un public qui s'émerveille, qui passe un moment extraordinaire. Et c'est ça la vertu d'une galerie. C'est de pouvoir offrir 20, 30, 40 minutes de bonheur, ce qui est complètement différent pour un musée d'art qui lui fait payer son entrée.
Ouais.
Je glisse l'information.
Peut-être que ça fera l'objet d'un troisième épisode, hein, la place de l'art urbain dans les musées, ça peut être intéressant avec toi. Il nous reste quelques minutes, on va aborder quand même l'extension de la galerie, qui en fait, tu as annexé la boutique d'à côté pour ouvrir. Et pourquoi ?
J'ai
envie de voir plus grand.
Ouais, plus grand, pour de plus gros projets, mais avant d'en arriver là... Quand j'ai investi ma première partie, j'ai tout de suite eu accès. En fait, il y avait une espèce de petite salle. Et cette salle, en fait, c'était juste un traversant entre les deux locaux.
Ouais.
Et moi, j'y avais accès. Et j'ai compris tout de suite, j'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire.
Et ouais.
Mais j'avais mes voisins commerçants à côté, les bougies de charreau à l'époque.
Mmh.
Et dès le départ, un an ou deux après... que la galerie est ouverte, je n'ai parlé à mon bailleur en disant, voilà Robert, si un jour ce local à côté se libère...
si jamais il y a moyen.
fais-moi passer en priorité, je le veux, je le souhaite. Et j'avais déjà pour idée de vouloir faire cette extension et ça a pris quasiment 8 ans.
Ouais.
Donc il a fallu être patient 8 ans et ça a donné ce que c'est à l'heure actuelle. Venez le voir.
Ouais, non, mais vraiment, venez le voir, parce qu'en plus, la pièce du fond, elle est dingo, l'œuvre de Mathieu elle est ouf, non, mais vraiment,
ouais.
Allez-y, parce que ça vaut vraiment le coup. Et en plus, tu as ajouté ces petits cubes blancs dans la pièce, ça fait très muséal.
Mais oui.
C'est vraiment chouette. Mais du coup, il y a le côté, enfin, je me rappelle la discussion avec Mathieu, c'est grand.
Oui, je l'entends à travers les artistes. Mais
c'est grand, faut mettre.
Ouais, moi-même j'ai eu difficile. Surtout cet été, on a passé le solo de Franck, et derrière, quand je suis revenu courant d'été, il y a la fameuse Estivale.
Oui.
Ça, c'est une exposition de groupe où on met les permanents,
les
premiers rôles de la galerie en avant, les collections qu'on ne peut pas montrer en temps normal, et j'ai eu beaucoup de mal à la mettre en place.
Ah ouais ?
Moi, il me fallait une prise de repère. Je n'avais pas du tout...
Mais parce que tu avais beaucoup d'espace et pas assez d'œuvres, ou en termes de scénographie ou...
Mais en fait, mon lieu, je le connais tellement par cœur. Je connais tellement aussi par cœur mes collections que je sais où va quoi.
Et
qu'est-ce qui peut marcher et matcher. Et là, j'avais un tout nouveau lieu qui avait doublé. Et c'est là où, au départ, je sortais des œuvres, je les mettais. Mais elles ne vont pas là, ce n'est pas possible. Je les remballais, j'en sortais d'autres et... Là, ça va mieux.
Ah ouais.
Mais il m'a fallu un peu de temps.
Là, ça va mieux. Comme avec Mathieu. Hein. Mathieu, c'est vrai qu'il dit « Ah, putain, c'est grand quand même, il faut la vie. » Alors que bon, on était déjà à la fin de, la fin de la production, il avait déjà toutes ses œuvres.
Ouais.
Mais quand même, tout cet espace, et à la fois, il l'a tellement bien, tellement bien investi.
C'est grand, mais c'est ce qu'il voulait aussi, tout ça. Donc,
oui, bien sûr.
Bon,
ça n'a rien à voir. Et maintenant, en voyant cette extension, je me dis qu'en fait, c'est évident qu'il te fallait cet espace-là parce que...
Ouais.
On le voit maintenant, mais si on ne voit que la première partie, on se dit que c'était presque un peu petit.
Ben oui, c'est une suite logique, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et même dans les propositions de Nocéno, je voulais des projets moins... aujourd'hui, on a 3 expos grand max à la galerie. Je voulais des expos les plus minimalistes possibles, que ça soit raffiné dans l'ensemble.
Ouais.
Et d'avoir cette extension, l'air de rien, ça ne double pas les quantités d'œuvres. Ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble et de pouvoir épurer au maximum les expositions et avoir une vraie proposition élégante.
Ah ben, ça, je le confirme.
Ouais.
C'est très élégant, c'est très pur.
Oui, c'est ça.
On arrive à la fin de cette émission. Merci Nicolas d'être revenu dans Terrain Vague.
Avec grand plaisir.
Merci Bruno, merci Tom que j'aperçois. Et peut-être à bientôt pour une troisième partie, qui sait. Je suis sûre qu'il y a plein de sujets à aborder encore avec toi.
30 minutes, ce n'est jamais assez.
C'est jamais assez. À bientôt et merci à tous.
Merci.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir... les graffeurs comme des délinquants, on s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tel des braqueurs de banque en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.